Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. On est là, on est bien, on est reparti pour une magnifique émission pendant 2 heures. Merci vraiment beaucoup du fond du cœur d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Appelez encore vos amis, on va exploser encore les sondages sur la prochaine vague, mais déjà on est très haut et on vous remercie vraiment tous les jours. On va vous le dire tous les jours maintenant. Voilà, avec Jean-Louis Tour. Salut Jean-Louis.
Salut Jérôme, salut tout le monde.
Ah Jean-Louis.
Ouais, super.
Voilà, putain, j'ai jamais eu autant de gens qui m'aiment.
Ah ouais.
C'est fou, hein.
Bah oui, bien sûr.
C'est fou.
C'est normal.
Il y en a un qui m'aime, c'est Christophe Dugarry.
Salut
Christophe.
Jours, je crois.
Salut Jérôme, salut Jean-Louis, bonsoir.
Salut Dugas.
Ça va Dugas ?
Ça va les poulets, c'est vrai que les audiences, ça marche du feu de Dieu. Félicitations à tous les deux, vraiment les gars.
Ah, merci Dugas. Bah, bravo. Alors, bravo à toi aussi, bravo, à toute l'équipe qui entoure Jérôme.
C'est mérité.
Non mais
bien sûr, vraiment il faut des. Il faut des capitaines, il faut des leaders, et c'est quand même vous, donc bon, c'est quand même, voilà. Félicitations à vous deux, et à Antoine aussi, parce qu'Antoine, il travaille
Antoine,
un petit peu aussi.
Antoine, je peux te dire qu'il coupe jamais le téléphone, t'en fais pas, hein. Et tu le sais. Et franchement, je te remercie d'être revenu, parce que, en tout cas, tu nous as permis aussi de faire des magnifiques audiences.
Voilà. Ouais, bah, t'es gentil. Avec plaisir, je suis ravi d'être là.
Il y a eu, aussi l'effet, Steve Savidan. Stevie, salut Stevie.
Bien sûr, toujours en mouvement. Quand je suis en train de rouler, je pense à vous. Franchement, c'est incroyable.
Toujours en mouvement.
Franchement, je tiens à remercier tous les auditeurs, franchement, parce que bon, bah, les 5,9 millions, je pense que c'est au moins 5 millions grâce à moi.
Ouais,
bah, le peuple, hein.
Ouais, bien sûr.
Donc, ouais. Merci à vous, encore une fois, de nous écouter.
Tout le peuple du Nord est déjà avec nous.
La Nord. Ouais. Puis, bah, la Gironde aussi, ouais. Hein, parce qu'ils sont représentés avec Tony, ouais. Dugas et moi, quoi. Donc, ouais. C'est pas mal, quoi.
Oh, ouais. C'est beau.
Bah, tous les territoires que Jérôme ne connaît pas, en fait.
Ok, oui, t'en fais pas.
Surtout Dugas, vous êtes sympa de citer tout le monde, mais à Bordeaux, quand même. C'est Dugas, c'est pas Savidan.
Ouais, on va peut-être redescendre un petit peu, non ?
Ouais, il a pris la relève et il s'impose.
Oh, la relève,
il est de partout.
Oh,
la relève. Quel honneur. Merci, voilà. Christophe.
Ce soir, messieurs, Roten sans flamme, autour d'Ousmane Dembélé. 4 buts sur les 3 derniers matchs avec le PSG, dont le doublé hier à Lorient. Peut-il être le leader offensif du PSG ? Non, mais par contre, Steve, faut faire le ménage chez toi, là. À un moment, il faut tenir le calme.
C'est pas moi.
Je pense que c'est Dugas.
C'est Dugas. Non, c'est chez moi. Non, mais je vais l'attacher, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci.
Très bien. C'était chez Steve. Bon, Dembélé peut-il remplacer Mbappé comme leader offensif du PSG la saison prochaine? 32-16, appelez-nous pour débattre, ce sera à 19h. À 18h30, Farioli, le coach niçois, sera l'accusé du soir. Au moment où son équipe marque le pas en championnat, il sera accusé de ne pas avoir vraiment fait progresser son équipe. Le casar enchaîné sera là à 18h45. Et Julien vous expliquera comment Pablo Longoria prépare la demi-finale de Coupe d'Europe avec Jean-Louis Gasset. Et puis vous le savez, demain, on est le vendredi 26. 26, c'est 2 x 13. Et oui, c'est donc le vendredi 13 sur RMC, même lorsqu'on est le vendredi 26. Ça veut dire qu'on vous offre jusqu'à 26 000 euros. Pour vous inscrire, ça se joue maintenant. Vous avez 5 minutes. Donc prenez votre téléphone, écrivez chance et vous envoyez le mot par SMS au 732-16. Chance par SMS au 732-16. Vous avez 5 minutes pour gagner 26 000 euros. Allez-y, et tout de suite. On le rappelle régulièrement, hein, mais Roten sans flamme, c'est vraiment l'émission Ami des arbitres.
Je n'ai pas l'ami comme toi.
L'arbitre qui vient nous expliquer, oui, alors par rapport à l'angle, il est masqué. C'est un astronaute, ce mec.
Non, pas d'autre ami.
Carton jaune, tu viens me parler. Carton jaune. Mais il nous prend pour des cons.
Comme toi.
Et on a marre de cet arbitrage français. Et on nous explique que l'arbitrage français est le meilleur de France. Qu'ils se remettent en question et que leurs patrons se remettent en question. Ça commence à bien faire.
Turpin et Frappard,
elle a été élue meilleure arbitre du monde.
C'est quand même incroyable.
Je n'ai pas l'ami comme toi.
Quel scandale cet arbitrage. Ça devrait être en prison, pas sur un terrain de football.
Hier, nouvelle soirée compliquée pour le corps arbitral français. Expulsion sévère de Moumbagna à Marseille. Penalty plus que généreux pour rattraper ça avec la faute sur Balerdi. Ça, c'était lors de Marseille-Nice. Un penalty oublié à Lille qui a prêté à contestation lors de Monaco-Lille. Nouvelle polémique donc, mais est-ce vraiment une question de niveau des arbitres? On en parlera avec Eric Borghini, le patron des arbitres au niveau fédéral. Oui. Mais est-ce que ça n'a pas toujours existé? Est-ce que le foot français va trop loin à chaque fois sur l'arbitrage? 32-16, appelez-nous pour débattre.
Jean-Louis, moi je maintiens ma proposition que j'avais fait. Je veux des arbitres étrangers dans un premier temps pour relever le niveau, parce que franchement c'est catastrophique. Et hier sur les trois matchs, du moins sur tous les deux à 21h, là, ça a été un vrai bordel encore une fois. Et pourtant on n'a pas les censés être n'avoir les moins bons, quoi. On a eu les moins bons hier. Je suis désolé. Turpin, le génie français, le meilleur arbitre français, il fait partie des moins bons de cette année. Au moins de cette année, tu vois. Je parle même pas des autres années, parce que on va pas refaire l'histoire, mais hier, Pignard, ses décisions, toutes ses décisions, avec le VAR aussi, parce que le VAR a été problématique hier à Marseille, donc il y a aucune rectification. Soit Turpin, on hésite à l'appeler, parce que c'est oui. Monsieur Turpin, et puis on n'a pas envie de le perturber. Soit les autres, ils dorment, ils ont pas envie de rajouter de la pression à un arbitre comme Pignard à Marseille sur ce Marseille-Nice. Mais c'est catastrophique. Et en fait, t'as l'impression qu'il y a aucune solution qui est amenée. Alors, je veux bien qu'ils fassent des séminaires, qu'ils se réunissent très souvent, qu'ils fassent le bilan des journées, mais il y a aucune amélioration.
On rappelle que le Texier et Turpin, quand même, seront à l'Euro et feront les demi-finales de Coupe d'Europe. Non, mais l'Europa League et Ligue des Champions.
Mais il n'y a pas de problème. Après, ils font ce qu'ils veulent au niveau de l'Europe. Moi, je te parle au niveau de l'arbitrage français.
C'est-à-dire qu'ils sont reconnus quand même par l'UEFA.
Jérôme, il est peut-être là le problème. Si on essaie de faire, excuse-moi, mais si on essaie de faire une analyse globale, quelles sont les deux compétitions les plus intéressantes, on va dire la Ligue des Champions, voilà, la plus spectaculaire, la plus intéressante, où on se régale, il y a du rythme, il y a de l'intensité, et la Première Ligue. Et la Première Ligue, voilà, c'est les deux championnats, enfin les deux compétitions, on va dire, où on se régale le plus. Il y a des raisons. Il y a des raisons, c'est pas seulement parce que c'est bien filmé, c'est pas seulement parce qu'il y a beaucoup d'argent, c'est pas seulement parce que les tables sont pleines. Voilà, c'est pas que ça. C'est une façon d'arbitrer. Moi, Jérôme, j'y reviens. J'ai envie d'essayer de défendre un peu nos arbitres, et notamment Monsieur Le Texier et Monsieur
Turpin,
qui vont partir arbitrer à l'international. Quand ils arbitrent à l'international, ils peuvent être moins bons, effectivement, mais je les ai trouvés bien meilleurs, mais bien meilleurs que ce qu'ils font en Ligue 1. C'est que les consignes ne sont pas les mêmes. Il faut, à un moment ou un autre, revoir l'arbitrage français. C'est-à-dire que plus tu mets de règles, plus c'est difficile d'arbitrer. Et le problème dans l'arbitrage français et en Ligue 1 en général, c'est que dès qu'il y a un contact, l'arbitre se sent obligé de siffler. Il y a trop de coups de sifflet. Et plus tu as de coups de sifflet, plus tu prends de décisions et plus tu as de chances de te tromper. En Première Ligue, une faute est une faute. Une faute, c'est pas une demi-faute, un quart de faute, une poussette, un petit quelque chose. Et on le sait, on a tous les trois été joueurs, même tous les quatre avec Jean-Louis, parce que le football, malgré tout, reste le football. Non mais, le football reste le football.
Exactement.
Quand un joueur, quand un arbitre, il va arrêter de siffler, parce qu'un joueur, il va essayer de chercher la faute, il va essayer de truquer, il va essayer de faire quelque chose pour obtenir quelque chose et être un peu dans la manipulation de l'arbitrage, qui va voir que l'arbitre il siffle pas? Il va se relever le mec, parce qu'il va se faire engueuler et par ses coéquipiers et par son entraîneur et par les supporters qui vont le siffler. L'arbitrage français, Jérôme, siffle trop. Il y a trop de décisions
prises au cours du match. T'es d'accord avec moi, t'es d'accord avec moi que ça a toujours un peu existé. Il y a un arbitrage qui est différent, et tu faisais référence l'arbitrage en Première Ligue, et tu l'as vécu parce que t'es allé jouer en Angleterre. Moi j'ai joué en Écosse, c'est la même chose. Ce que je veux dire, il y a de l'engagement et c'est pas le même arbitrage qu'on peut nous subir ici en France.
C'est un problème cet engagement-là pour les joueurs.
Non, c'est pas un problème, mais tu as raison. Mais sauf que moi, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Et moi, j'ai envie de leur laisser la chance. Le problème, c'est que ils t'expliquent pas qu'ils veulent changer. Ils font pas leur autocritique parce qu'on leur interdit de parler. Encore une fois.
Regarde,
avec ce qui s'est passé hier. Très honnêtement, je me suis dit, c'est le moment d'essayer d'appeler les acteurs, d'appeler les arbitres. Il y en a certains qui me répondent, je vais pas donner les noms parce qu'après on va leur reprocher qu'ils me parlent, mais il y en a certains qui étaient prêts à parler. Le problème, c'est qu'on leur interdiction de la part de monsieur Gauthier.
Exactement.
Et pourtant au début de l'année avec Stéphane Lannoy, les deux nous ont expliqué qu'ils allaient ouvrir un peu plus la communication, qu'ils allaient venir s'expliquer à la fin du match quand ils font une connerie.
Toute la journée, muet toute la journée.
Rien. Ouais. Et du gars, ce que je leur reproche, il y a le niveau de l'arbitrage. Et c'est vrai que malheureusement, il y en a certains qui sont rattrapés par la patrouille parce qu'ils sont pas au niveau. Ils sont pas au niveau. Et tu me faisais référence de Turpin en Coupe d'Europe. Oui, il en a fait des bons matchs déjà. Le problème, c'est que c'est moins récurrent qu'en France. En France, c'est toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. Donc, déjà, il se met dans une posture différente. Et la posture, elle est importante parce que moi, c'est ce que je leur reproche pour la plupart. Je vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais c'est leur attitude. C'est ce qui dégage quand ils se trompent d'une façon, quand ils donnent un carton, quand ils sifflent, quand ils parlent aux joueurs. Mais, eh oh, il faut qu'ils redescendent, ils se prennent pour d'autres.
Excusez-moi, juste les différences de comportement avec le Texier. Après, je vous laisse parler. Quand il y a eu le match entre le Real Madrid et City, c'est lui qui a arbitré le match aller. À un moment, il y a une faute qui n'est pas sifflée sur Bellingham. Et Bellingham, il va le voir, il est énervé, et tout. Et c'est le Texier qui cherche à serrer la main à Bellingham. Alors, Bellingham, il lui serre pas la main parce qu'il le voit pas, si tu veux. Donc, il prend un petit râteau. Le Texier, bon, c'est pas volontaire. Mais tu vois que le Texier, on lit sur ses lèvres. Excusez-moi, je l'ai pas vu. Et tu vois, donc, il parle en anglais, il explique, il explique qu'il a pas vu. Donc, il commet une erreur. Donc, il veut serrer la main à Bellingham. Rien que cette attitude-là, je ne l'ai jamais vu sur aucun arbitre.
Bah, c'est problématique. Mais comment ça se fait, Steve?
Je pense qu'il y a les consignes et puis il y a un réel problème. Je pense que, alors moi j'étais partisan de la VAR quand c'est arrivé. Et je crois que fondamentalement c'est là le problème en France, c'est qu'on la VAR maintenant est devenue de l'assistanat. Et maintenant ils ont peur à la fois de se déjuger directement dans la VAR, de déjuger un collègue. Et comme si c'était, moi au final, l'arbitre, c'est celui qui est dans la VAR qui prendra une décision. Et je trouve qu'il y a un réel problème. On est passé aujourd'hui de quelque chose qui était en soutien pour amener une certitude.
Oui, mais le problème, c'est pas que la VAR.
Attends, je vais continuer. Et en fait, là, on le voit sur les dernières semaines, c'est quand même un problème qui est lié avec la VAR. On le voit encore avec Pignard sur Marseille-Nice. C'est qu'au final, il commence son match un petit peu sans assistana. On commence un petit peu à arriver sur un deuxième carton sur Mumbagna, on arrive sur un penalty, mais c'est des choses qui sont tellement importantes et qui sont, mais là tu enlèves ton ego, tu vas demander à la VAR une confirmation. C'est des choses qui sont quand même essentielles. On est bientôt dans le Money Time, c'est bientôt à la fin du championnat, les points sont importants, les décisions sont importantes.
Non, mais sans parler calendrier, on s'en fout, au début de saison, c'est la même chose.
Ce que je veux dire, c'est que je pense que les arbitres n'ont pas conscience que leur décision est lourde de conséquences pour le déroulement d'un match. Et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, Christophe, c'est que je crois aussi, en termes de posture, ça c'est Jérôme qui le disait, il va falloir qu'il s'améliore. Et moi, je me rappelle d'un temps où il y avait Silas Bilong, qui était un ancien joueur dans le championnat dans lequel j'évoluais en National ou en Ligue 2, ou encore dernièrement avec Gaël Angoula. C'est bizarre. Gaël Angoula, on n'en entend jamais parler. On n'entend jamais parler de problème.
C'est plus philosophique. C'est-à-dire que à quoi aujourd'hui sert l'arbitrage? C'est quoi l'arbitrage? On le voit avec le rugby. Ils ont essayé. Alors on peut pas comparer. Bien évidemment, là, on a déjà eu ces débats-là. Mais aujourd'hui, il y a un problème de contestation qui se fait dans l'arbitrage. Et plutôt que d'essayer de donner raison aux joueurs ou aux arbitres, ils ont reparlé de l'arbitrage. Qu'est-ce que ça veut dire l'arbitrage? À quoi ça sert l'arbitrage? L'arbitre, c'est le chef d'orchestre du match. C'est lui qui donne le tempo. C'est le métronome du match. C'est lui qui va faire que le match peut être bon ou pas bon, malheureusement.
Et tu te rappelles, Christophe,
qu'un élément, l'arbitre, il est primordial. À quoi il sert? Et je pense que ça, il faut y revenir.
Ouais. Et puis, tu sais, moi, je me rappelle d'une période où on disait, quand on n'entend pas parler de l'arbitre, c'est que l'arbitre a été bon. Et aujourd'hui, toutes les semaines, à chaque match, il y a trop de coups sifflés. Et en plus, surtout, et je reviens là-dessus, sur des anciens joueurs, ou en tout cas, pas des anciens joueurs, mais des anciens pratiquants d'un certain niveau qui deviennent arbitres professionnels, aujourd'hui, ils ont quand même le sentiment dans les interventions des joueurs. Et je vois, par exemple, sur Mumbagna, qui fait une intervention sur son deuxième jaune, elle est un peu virile, peut-être, mais honnêtement, ça mérite pas un jaune.
Mais Steve,
ça remite mal le deuxième jaune.
Quand tu as la chance d'arbitrer à Marseille-Nice, parce que pour moi c'est une chance, parce que ça fait partie des affiches. Quand tu trompes autant, tu dois aller au frigo pendant un mois, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais le problème, c'est qu'ils le font pas. Et on va en parler avec Monsieur Borghini. Ils le font pas parce que il faut avoir la carte, il faut avoir le visa, il faut avoir les trucs. Alors ils vont défendre les arbitres internationaux. Ah non, surtout pas eux. Même s'ils se trompent, on va les protéger puis on va les remettre. Et puis il y en a certains qui viennent soit du foot amateur et en effet, ou qui ont été joueurs professionnels et qui ont envie de venir arbitre pour faire évoluer les choses. Mais eux, ils sont mal vus. Mmh. Moi, je te le dis tout de suite. J'imagine les réunions, les paroles qu'ont les anciens joueurs qui sont devenus arbitres aujourd'hui. Mais elles comptent pas parce que les autres, ils se prennent pour d'autres. Ils se prennent pour les petits chefs. Et c'est la réalité.
Alors, hier,
je suis désolé. Monsieur Pignard, je le connais pas personnellement.
Oui.
Mais rien que son attitude, elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Alors, s'il arrive pas à gérer la pression, c'est qu'il est pas au niveau d'arbitrer un match sous haute pression. Et bien, dans ces cas-là, tu le mets pas sur les matchs de Marseille. Et monsieur Turpin, qui est à Monaco, où là, on peut pas dire que la pression populaire du stade a joué en sa défaveur. Tu vois, donc c'est autre chose.
Pourquoi ils sont moins mauvais en Ligue des Champions? Il y a une explication. Il faut l'avoir.
Parce que je pense qu'il y a tout un contexte.
Tu parlais de monsieur
Texier. Il a pas été mal, le Real Madrid de Manchester City.
Bon, après, c'est bon. Toujours pareil. Il a été critiqué après le match, surtout du côté des Espagnols. Mais bon, ça, on est d'accord.
Moi, je l'ai trouvé beau. Il a laissé jouer.
C'est vrai, tu as raison.
T'as un joli 3-3 parce que t'as un bon arbitre aussi. Mais ça fait partie du tout. Tu as raison.
Sauf que monsieur Turpin, on oublie aussi. Rappelle-toi, c'était l'année dernière ou il y a deux ans, quand il a arbitré à Bayern Munich. Et que là, les gens là-bas, mais ils se disaient, mais c'est quoi cet arbitre? Tu vois, c'était du grand arbitre. C'était un quart de finale.
Notre invité est là. Éric Borghini, le président de la commission fédérale des arbitres dans Rotten sans flamme.
C'est le patron des arbitres, non? Oui. Monsieur Borghini, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Bonsoir,
patron
monsieur
niveau
Borghini.
Fédéral, hein, bon. C'est Anthony Gauthier qui est
des arbitres. De toute façon, on a du mal à y comprendre. Donc, monsieur Borghini, on va rentrer dans le vif du sujet parce que moi, je vais assumer ma prise de position. Pourquoi on est nul comme ça dans l'arbitrage français?
Alors, je pense que c'est excessif de dire nul. Et d'ailleurs, l'actualité récente le démontre, puisque Clément Turpin et François Le Texier viennent d'être sélectionnés pour participer à l'Euro. François Le Texier, il a été sélectionné par la FIFA pour faire les Jeux Olympiques. Et tous les deux leaders de l'arbitrage français, donc Le Texier et Turpin, vont arbitrer une demi-finale chacun de Coupe d'Europe, Turpin demi-finale de la Champions League et Le Texier demi-finale de l'Europa League, après avoir arbitré tous les deux en quart de finale, ce qui est rare, hein. Ça se passe comme ça, et notamment François Le Texier, qui a fait quart de finale retour de la Champions
League. Alors monsieur Borghini, pourquoi en Ligue 1 ils sont mauvais?
Alors, disons que ce qui se passe, et là je vous rejoins parfaitement, je ne nie pas l'évidence, il y a un certain nombre de matchs que nous avons vécu, que nous avons vu, où les arbitres ont pris des décisions qui clairement n'étaient pas attendues. Le dernier match, le Marseille-Nice, dans l'actualité, un accident industriel comme nous avions eu à Lyon-Brest,
Monsieur Vernis,
où il y avait eu là encore un accident industriel. Bon, on n'a pas.
Ça fait beaucoup de catastrophes industrielles quand même. L'entreprise, elle est morte là.
Ça peut donner cette impression, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas plus d'erreurs d'arbitrage aujourd'hui qu'il y a 3 mois, qu'il y a 3 ans. Simplement, aujourd'hui, il y a un contexte que vous pouvez me concéder ça. Il y a une ambiance d'hostilité envers l'arbitrage qui est un peu...
Ah, c'est la faute aux journalistes. Ah, donc c'est vrai.
Ouais, aux acteurs du foot, je pense.
Pas du tout. C'est pas du tout ça. Je pensais davantage à un certain nombre de présidents de clubs.
Oui, voilà.
Les journalistes font leur travail. Moi, vous ne m'entendrez jamais critiquer des journalistes qui font leur travail.
Vous parlez du départ de Stéphane Lannoy et effectivement du flou qu'il y a au niveau de la direction de l'arbitrage.
Voilà. Alors, d'abord, il n'y a pas de flou. Tout est très clair. Hein. Et tout à l'heure, nous avons eu un comex. Là, je viens de sortir d'un comex où nous avons validé les recommandations faites par Madame Laurent, qui est donc la conseillère d'État honoraire que nous avions chargée à la suite de l'article de SoFoot de faire un audit de l'arbitrage, hein, parce que on s'était ému de ce qui avait été révélé par SoFoot, et nous avons été complètement rassurés puisque la première ligne du rapport, c'est l'intégrité de l'arbitrage français, de la CFA, de la DA n'est pas remis en cause, mais je vais faire 6 propositions, 6 recommandations pour améliorer la gouvernance de l'arbitrage. Mmh. Ces propositions ont été validées par le COMEX. C'est pas quelque chose de révolutionnaire, hein, mais ce sont des ajustements qui
monsieur,
sont,
monsieur Borghini, voilà, dans les 6 propositions, est-ce qu'il y a un peu plus de modestie, d'humilité de la part de certains arbitres?
Non. Alors, écoutez, ça, l'humilité, la modestie, ce sont les consignes générales permanentes que nous donnons à nos arbitres.
Et est-ce que vous avez là-dessus, monsieur Borghini, je suis désolé, hein, sans citer de nom, mais quand même, on voit les attitudes, vous les voyez aussi. Vous pouvez pas me dire qu'ils ont l'attitude idéale, quand même, de ce côté-là. Monsieur Turpin, alors, par exemple, le meilleur arbitre français, soi-disant, qu'on nous dit, lui, il veut pas suivre la VAR. Du moins, même les arbitres VAR ont peur c'est une info que je vous donne, hein, parce que si on vous le dit pas, moi, on me le dit. Dans le cas, on a peur de monsieur Turpin, parce que si on l'appelle, il écoute pas. Alors donc, on préfère pas l'appeler.
Non, bon, ça, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes à ce niveau-là. Il est en fait certain que Clément, qui est l'un des meilleurs arbitres du monde, je rappelle qu'au dernier
classement... Ah, du monde ? Ah oui.
Du monde. Ah oui. Troisième meilleur arbitre du monde.
Mais et quel François monde, en fait ?
Sixième meilleur arbitre du monde. Bon. Donc, moi, je pense que
Monsieur Borghini, sincèrement, votre intervention, elle fait plus de mal à l'arbitrage que sincèrement. Ce que vous êtes en train de dire et de faire, là, tout va bien, tout est parfait. On a pris 6 décisions, décisions, mais c'est quand même des décisions. Non, mais si c'est pour venir, merci d'être là. Moi, j'ai le plus grand respect pour vous, monsieur. Mais sincèrement, l'arbitrage français, il est dans un état catastrophique. Et vous voulez nous expliquer que monsieur Turpin est génial et que vous avez pris quelques décisions parce que vous avez nommé quelqu'un à la suite de l'article Jean Sauffoot.
C'est pas ce que je dis. Vous caricaturez mes propos. Moi, je suis le premier à reconnaître qu'il y a des erreurs d'arbitrage.
Et bien, prenez des décisions, alors.
Pardon, mais monsieur, les décisions, nous les prenons et nous allons les prendre fin mai quand on va faire les classements des arbitres. Vous ne croyez pas que les arbitres qui font des mauvais matchs ne sont pas impactés.
Mais vous êtes monsieur Borghini, je suis désolé pour rebondir sur ce que dit Dugas. Vous me dites que Clément Turpin fait partie, donc est troisième meilleur arbitre du monde. Et alors, s'il est troisième meilleur arbitre du monde, automatiquement, il est meilleur arbitre français.
C'est pas lui le meilleur arbitre français. C'est François Le Texier. Ah. Dans le classement domestique que nous avons établi, donc le classement de la saison dernière, hein, qui va être revu là au mois de mai, le numéro 1, c'est François Le Texier, le numéro 2, c'est Clément Turpin, et le numéro 3, c'est Benoît Bastien. Benoît Bastien qui, d'ailleurs, entre parenthèses, fait une saison remarquable cette année, on n'entend pas parler de lui.
Hein. Ah ben, quand on n'entend pas parler des arbitres, en général, c'est bon signe, voilà. En effet. Ouais.
Et d'ailleurs, l'Arabie Saoudite vient de le demander pour arbitrer la finale de sa Coupe du Roi, là-bas, parce que, ça aussi, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais beaucoup de pays demandent
les Français. Non, mais tout va bien.
Demandent les Français, le Qatar,
et monsieur Borghini,
la Grèce, le Portugal, la Belgique, la Suisse.
Nous, on peut pas en demander des arbitres étrangers aussi français. Pour laisser comme
mais
ça.
On a des échanges. Alors évidemment, c'est pas tous les matchs de championnat, mais il y a des arbitres étrangers qui viennent diriger des matchs du championnat de France dans le cadre des échanges que nous avons avec les pays. Non, ce qu'il y a, c'est que il y a là actuellement, je suis le premier à le reconnaître, hein, des matchs avec des décisions qui ne sont clairement pas attendues, des erreurs d'arbitrage.
Et comment on les sanctionne quand ils font des erreurs comme ça ? Comment on sanctionne les arbitres ? Parce que j'ai l'impression qu'il ne se passe rien, en fait.
Monsieur Turpin a été élu numéro
2. Aujourd'hui même, Anthony Gauthier, qui est actuellement à l'étranger, a téléphoné à Jérémy Pignard pour lui dire clairement qu'il y avait au minimum 2 décisions qu'il a prises qui n'étaient pas attendues, et il lui a indiqué que le match qu'il devait faire la semaine prochaine, lui a été retiré. Donc voilà, ne croyez pas que nous laissons faire les choses comme ça.
Monsieur Borghini, votre analyse, parce que là maintenant ça me revient, je ne vous ai pas repris tout de suite, mais monsieur Bastien, c'est bien lui qui arbitrait le Classico, là, Marseille-Paris-Saint-Germain. Vous avez trouvé qu'il avait été énorme sur le Classico ? Il a été catastrophique.
je me rappelle plus. Je sais plus si c'est lui qui a arbitré le classico ou pas.
Eh oui, oui. Mais catastrophique, je vous le dis. Donc, quelqu'un qui fait une excellente année, bah, franchement, je vois pas où sont les critères. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les arbitres qu'on entend moins et qui font moins de bruit et tout ça, mais on a l'impression qu'ils ont pas la carte pour arbitrer les meilleurs matchs. Ceux-là, on les entend pas, en fait. Ceux-là, dans le classement, ils apparaissent toujours dans les derniers, monsieur Borghini.
À qui vous pensez quand vous me dites ça?
Oh, bah, à des arbitres qui sont montés de Ligue 2 en Ligue 1, à des arbitres qui arbitrent des matchs.
Bah, qui, alors, Jérôme?
Pour le maintien.
Gaël Angoula?
Bah, oui.
Benoît Millot?
Benoît Millot, Gaël Angoula.
Gaël, je pense qu'il a une belle progression.
C'est vrai.
Il vient d'arriver en Ligue 1. Il a 41 ans, il va sur ses 42 ans. Et ça, c'est moi qui ai demandé. Qui est supprimé.
Bah, bravo. Bravo. Alors ça, c'est un truc de bien.
Parce qu'avant, il aurait jamais pu monter, avant que moi j'arrive à la présidence de la CFA, il aurait jamais pu monter en Ligue 1. Là, nous avons Gaël, qui est un exemple. Il y a aussi Jérémy Stinac, qui est un ancien pro, qui est très discret comme garçon et qui fait ses matchs.
Et c'est vous aussi, voilà, ça?
Pardon?
C'est vous aussi qui avez permis à ces arbitres-là, ces jeunes arbitres, de pouvoir monter?
Ah ben, c'est eux. C'est leur qualité athlétique, technique, physique, qui leur a permis de se classer et de monter. Non, moi, ce que j'ai fait, c'est que en 2013, j'ai supprimé les limites d'âge. Voilà. Maintenant, il n'y a plus. Avant, il y avait des limites d'âge. Quand vous étiez en Ligue 2 et que vous aviez un certain âge, eh ben, même si vous étiez le meilleur, vous ne pouviez pas monter en Ligue 1. Ça a été supprimé. Maintenant, ceux qui sont bons en Ligue 2,
Ça a été le cas de Gaël. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je vais appeler Robert Wurtz pour qu'il revienne révolutionner un peu l'arbitrage.
Et Gaël, ça a été une très belle chose qui est arrivée dans l'arbitrage français. Et je l'ai d'ailleurs beaucoup encouragé à ce moment.
Si j'ai bien compris, donc c'est conjoncturel. En ce moment, c'est la faute à pas de chance. Donc vous avez créé une commission, vous avez pris à peu près 6 décisions qui vont vraiment rien révolutionner. Mais on va faire le dos rond et puis on va attendre que les jours soient meilleurs, puisque comme que dans tous les classements, tous les Français sont présents dans le haut du classement. En gros, voilà, c'est pas très grave. C'est juste, c'est la faute à pas de chance en ce moment. C'est bien ça.
Non, c'est pas la faute à pas de chance. Il y a certainement du travail encore à faire, vous savez. C'est quelque chose qui est sans arrêt, il faut se remettre en cause. Donc moi, je suis pas là en train de vous dire tout va bien dans le meilleur des mondes. Ah, c'est juste une petite non, il y a des problèmes qu'il faut regarder en face. Il faut donner les moyens à nos arbitres pour continuer à travailler. Je pense pas que le tableau soit aussi noir que ce que vous décrivez, pas vous personnellement, mais ce qui se dit sur les réseaux sociaux, quand on écoute évidemment les fans, quand on écoute il y a beaucoup d'exagération, mais non, c'est vrai qu'il y a des problèmes. Voilà, on a eu un problème avec la VAR, manifestement il y avait des choses qui n'allaient pas. Anthony Gauthier, dès qu'il est arrivé, a donné des nouvelles consignes pour la VAR. Alors je vous donne par exemple, je vous donne deux exemples. Quand, par exemple, au début du match, vous avez un anéantissement, 6 secondes de jeu, on a eu le cas à Nice, 6 secondes de jeu, carton rouge. Donc ça veut dire qu'une équipe va jouer à 10 pendant tout le match. Bon, dans ce cas-là, le protocole IFAB, mais qui n'était jamais appliqué par les arbitres, prévoit que pour des raisons de management du match, on peut demander à voir les images. Nous avons demandé dans les instructions qui ont été données aux arbitres là, au mois de mars, quand Gauthier a repris en main les choses, et il leur a dit, dans un cas comme ça, même si vous êtes sûr de vous, même si l'arbitre VAR n'envoie pas les images, parce que c'est une bonne décision, on vous invite à quand même aller voir les images.
Okay.
Dans ce cas-là. Et pareil, s'il y a un péno dans le temps additionnel, 95e minute, on est 1-1, on est 0-0, on est 2-2, vous sifflez un péno. Quand on siffle un péno dans ces conditions-là, il faut que l'arbitre soit sûr à 200%. Donc, il est sûr de lui, l'arbitre. Il est sûr d'avoir pris la bonne décision. Malgré tout, on demande aux arbitres d'aller voir les images en bord de terrain. Okay. Ne serait-ce que, j'allais dire presque par respect pour l'équipe qui est victime.
On en a déjà parlé de cette décision tout le monde n'est pas fan. Ouais, en tout cas, merci beaucoup Eric Borghini d'être venu sur RMC.
Merci.
Merci monsieur.
Et bon courage. Allez, au boulot maintenant.
Eric Borghini, donc, le président de la commission fédérale des arbitres à la Fédération française de foot. Dans une seconde, le dossier Francesco Farioli, l'entraîneur de Nice, accusé de ne pas faire progresser son équipe. À tout de suite.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h34 sur RMC, on est là, on est bien. La deuxième demi-heure de Roten sans flamme, elle commence maintenant avec Christophe Dugarry, avec Steve Savidan et avec Jean-Louis Tour. Et dans 10 minutes, c'est le moment de Julien Cazard pour se détendre avec son Cazard enchaîné, bien sûr. Mais on est là jusqu'à 20h, vous allez profiter de nous. On est là, vous inquiétez pas, encore une bonne heure et demie, Jean-Louis.
On y va sur Nice.
RMC, Roten sans flamme.
Conduis-toi comme un homme. Qu'est-ce qu'il prend, mon Dieu? Et ça, ce que tu as dit? Un jeune premier d'Hollywood. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que c'est que ces façons?
Faites entrer l'accusé.
Deux victoires seulement sur les 11 derniers matchs de Ligue 1 pour Nice. On est loin du début de saison prometteur et du fameux effet Farioli. Au classement, Nice est quand même toujours européen, 5e. Il y a la menace lensoise qui se précise à 4 journées de la fin. Il faut faire attention et il y a une impression générale que l'équipe ne progresse pas. Et c'est précisément là-dessus que va se porter l'accusation. Farioli, accusé de ne pas avoir vraiment fait progresser cette équipe de l'OGC Nice. L'accusation est menée par le procureur Christophe Dugarry. Bonsoir.
Bonsoir messieurs.
Farioli va être défendu par maître Jérôme Roten. Bonsoir maître.
Bonsoir à tous.
Et le juge Savidan pour trancher. Bonsoir monsieur le juge.
Bonsoir.
Alors monsieur le procureur, qu'est-ce que vous reprochez à Farioli?
Non, ben je reproche. Alors, je c'est difficile d'attaquer un entraîneur déjà qui est un jeune entraîneur qui commence, qui arrive avec beaucoup d'humilité. Voilà, moi je l'ai senti très simple, très abordable, très normal. Quand on voit le nombre de points qu'a aujourd'hui l'OGC Nice, rien n'est catastrophique. Mais c'est vrai qu'on a un sentiment assez particulier parce qu'on en attendait beaucoup aussi de ce monsieur. Il a été présenté comme quelqu'un qui arrive avec des idées un petit peu nouvelles, un petit peu des idées fraîches. Et quand on analyse un peu la saison de Nice, on est déçu parce que quand cette équipe marquait des points, eh bien elle jouait pas bien. Elle a commencé à mieux jouer et elle a commencé à pas gagner de match. Et là, ni elle joue bien, ni elle prend des points. Donc c'est devenu une saison où il s'est à peu près tout passé tout au long de la saison. Elle est encore dans ses objectifs qui est pour moi de jouer l'Europe. Ça me paraissait pas être des objectifs plus hauts. Donc voilà, un entraîneur qui est dans les clous, on peut considérer que c'est une réussite pour ce qui lui était demandé. Maintenant, je trouve que moi, que ce soit l'impression collective ou même l'impression individuelle de ces joueurs, je vois des joueurs qui ne progressent pas, qui ne progressent plus. Et au-delà du classement, au-delà des objectifs du club, c'est quelque chose d'important pour un entraîneur. C'est la base de se lever le matin, de se lever tous les matins et d'aller entraîner ses joueurs. C'est de les faire progresser, surtout quand tu as la chance d'avoir un jeune effectif. Et ce jeune effectif, je ne le vois pas progresser, ni collectivement et ni individuellement. Je voyais des joueurs qui arrivaient en force, notamment en équipe de France, qui, là, sincèrement, à moins d'un miracle insensé, ne joueront pas l'Euro. Voilà, c'est ça qui est le plus décevant. Je les ai pas sentis progresser techniquement, je les ai pas tant sentis progresser mentalement, même pas physiquement. Je sens pas une équipe déterminée. On sent pas une équipe qui techniquement a su imposer quoi que ce soit tout au long de la saison. Ça a été à chaque fois poussif. C'est à chaque fois. Alors il y a des décisions d'arbitre. Ils en ont eu plusieurs qui leur ont été défavorables, qui auraient pu faire tourner cette équipe dans le bon sens et leur faire avoir vite 3-4 points de plus. Et là ils auraient été dans le combat peut-être même à la Ligue des Champions, même si la Ligue des Champions est quand même assez loin. Voilà, ça se joue à pas grand-chose. Mais la sensation donnée par cette équipe est pas bonne. Et bien évidemment que le responsable qui les voit jouer tous les jours et qui prend les décisions et qui est censé le faire progresser, c'est l'entraîneur. Donc on connaissait pas cet entraîneur. Moi j'en attendais beaucoup parce que je me suis dit pourquoi pas. Voilà, le football, comme on l'a dit la semaine dernière, il y a pas de vérité, hein. Chaque vérité, la vérité d'hier et pas celle du lendemain. Donc pourquoi pas, il peut me faire découvrir des trucs, il peut me faire apprendre des choses. Mais voilà, pour l'instant moi ça a pas fonctionné, j'ai pas été réactif à ce qu'il a mis en place sur le terrain, ça m'a pas séduit pour le moment. Donc voilà, je reste sur ma faim. Je sais pas s'il va rester une saison de plus ou pas, mais je reste un petit peu sur ma faim sur ce que j'attendais de cet entraîneur et de cette équipe là.
On va écouter la défense, maître Roten.
Oui, bon, on n'est pas très 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 éloigné avec Dugas sur le constat que Lille Nice est une équipe qui a stagné, même régressé. On a même l'impression qu'elle a régressé collectivement sur la deuxième partie de saison, après avoir mis la barre haute. Et là, on peut pas minimiser le gros travail de l'entraîneur. Il a su redynamiser un groupe qui a pas vraiment changé par rapport à l'année dernière. On s'est aperçu l'année dernière aussi qu'il y avait une année un petit peu bizarre avec le changement d'entraîneur, avec un début de saison catastrophique, et ça a été mieux sur la fin. On n'a pas renouvelé l'effectif comme à mon avis on lui a promis, parce que l'actionnaire n'a plus envie de mettre autant d'argent qu'il avait prévu. Le constat s'est fait donc dans le recrutement. On lui a recruté Boga pour remplacer Pépé qui était reparti, et on a pris Sanson au milieu de terrain aussi pour compenser le départ de je sais plus qui exactement. Il y en a un qui est un autre qui est parti, mais ce que je veux te dire, c'est que en plus dans la saison il a perdu Attal pour les raisons qu'on connaît, qui était un titulaire en puissance, que mine de rien la première partie de saison est remarquable par rapport à cet effectif là et c'est pour ça que je veux prendre
en termes de points,
en termes de points.
Je rappelle, le jeu c'était ennuyeux.
C'est vrai,
oh là là.
C'est vrai, du gars, c'est vrai, mais après, est-ce que le constat qu'il a fait Farioli, c'est pas aussi son talent qui a mis ça en avant, c'est que très vite, à mon avis, il s'est aperçu que cette équipe, il y avait un manque dans la créativité, de bons joueurs, de très bons joueurs pour te permettre de finir dans les quatre premiers du classement, et qu'il s'est dit, je vais jouer sur un plan tactique très défensif, où je vais essayer de qu'ils soient très concentrés, et ça a été le cas sur la première partie de saison, parce que quand tu as une équipe qui prend aussi peu de buts et qui est très performante au niveau offensif, parce que il leur fallait pas 10 occasions pour mettre un but, c'est aussi ce que leur demandait Farioli. Le problème à ça, c'est que ça s'est essoufflé, et que dès qu'ils ont eu la première défaite, il a fallu qu'il remette quelque chose en place avec une équipe qui était un peu plus joueuse. Et là, il a perdu un peu ce qu'il avait mis, l'âme qu'il avait mis en début d'année. Et c'est vrai que, malgré tout, il est aussi rattrapé par ses joueurs. Moi, je suis désolé, cet effectif-là, pour moi, il est limité. Ils surperforment dans leur cinquième place aujourd'hui, parce que pour moi il y a des effectifs qui sont bien supérieurs à Nice en termes d'effectifs, et puis après aussi rattrapé, tu le disais du gars, dans la progression de certains joueurs, il y a des joueurs qui se sont enflammés, et ça malheureusement l'entraîneur il n'est pas responsable de ça. Quand Todibo il met plus un pied devant l'autre parce qu'il se voit meilleur défenseur au monde, quand Thuram après avoir été appelé en
équipe
de France,
pourquoi l'entraîneur n'est pas responsable de ça?
Parce que l'entraîneur il n'est pas responsable des têtes, les têtes quand elles enflent il peut, à travers ses choix, les mettre de côté. Le problème, c'est l'effectif. Aujourd'hui, de Nice, il n'est pas pléthorique, et donc, il ne peut pas se permettre de ne pas jouer avec Thuram, de ne pas jouer avec Todibo.
Alors, on va laisser le juge Savidan trancher cette affaire. Il est responsable ou pas, Farioli?
Bah oui, il est responsable. Il est responsable des très bons résultats que Nice a eu en début de saison. Il est responsable aussi de la tournure que ça a pris après le mercato, où ils se sont un petit peu renforcés. Mais il est responsable de la une victoire sur 10 matchs. Il est responsable de ce que dit Jérôme, que les têtes ont un petit peu enflé suite à ce premier très bon début de saison, où on voit Todibo pratiquement marcher sur l'eau, international, pas rappelé, déception. Quand on voit Thuram, où il lui faut pas vraiment beaucoup d'occasions pour marquer, et puis derrière on regarde encore le dernier match où Nice, il leur faut 8 occasions franches,
tu peux mettre
j'allais dire tout ça, les attaquants en finale ont besoin de je sais pas combien d'occasions par match, mais vraiment des occasions, pas des situations pour marquer. Quand on voit que t'as un défenseur qui a plus de 40 ans, qui tient la baraque et qui n'est pas en péril par un renouvellement. Donc, en fait,
mis en avant aussi ce manque de caractère.
Exactement, parce que en fait, là où tous ces côtés positifs de sa jeunesse, Farioli, avec son effectif, on sentait une bonne bande limite. Tu vois où franchement c'était très enthousiasme en début de saison. Et puis derrière, ils se sont mis un peu de le dur, parce qu'on se rend compte que dès qu'il y a un peu moins d'expérience dans la gestion des résultats, dans la gestion des matchs, de la pression, voire même des émotions quand ça gagne, là ça s'écroule. Et je rejoins Christophe tout à l'heure en disant, ils sont quand même bien classés. Et là je me pose la question.
C'est pour ça que c'est difficile de le condamner aujourd'hui.
Exactement.
Mais il finit quatrième.
Et par contre, c'est pas forcément lui que je condamne. Moi, c'est Ineos derrière,
Le projet.
Là où je me dis, Mais là, on parlait la semaine dernière de l'investissement de Marseille. On parlait de l'investissement de certains clubs dans leurs effectifs par rapport à leur puissance financière. Ineos, ils sont où là ? C'est quoi le projet là ? C'est être européen, construire une grosse équipe, ou simplement, bon bah, continuer à être un Nice assez sympa. Moi, je trouve qu'il y a une grosse capacité, je finirai là-dessus.
Allez,
c'est ça. Et d'avoir un public qui suit. Moi, quand je me rappelle dans les années 2000 ou dans le stade Duret à Nice, c'était le feu. Et là, aujourd'hui, c'est un stade aseptisé où on sent pas vraiment de figure.
Victoire de Duguay. On est d'accord. C'est ça, le verdict.
Oh, des deux, je mettrai les deux. Je pense que Christophe serait d'accord.
C'est vrai, quand tu annonces des vedettes.
J'ai même entendu dans la rédac derrière Antoine qui est en train d'exploser.
Allez, dans une seconde, le cas arrangé, on n'a rien compris à la fin. A tout de suite.
RMC, jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
18h47 sur RMC, on est là, on est bien, on finit la première heure de Rotten sans flamme avec le moment de Julien Cazard, son Cazard enchaîné. On est avec Christophe Dugarry, avec Steve Savidan et avec Jean-Louis Tour. Et après 19h, Jean-Louis, tu nous as concocté encore un bon programme.
Ousmane Dembélé peut-il remplacer Mbappé comme leader offensif du PSG ?
Quelle fin de saison il fait ?
32-16 pour débat.
C'est un vrai sujet, ça.
Ah. Et là, le vrai moment, c'est le moment où on rit.
RMC
Rotten
sans flamme.
Le Cazard enchaîné.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 25 avril et le Paris Saint-Germain n'est toujours pas champion de France. Eh oui !
Ça devrait pas tarder là quand même.
Ah, mais qu'est-ce que t'en sais ? Mais c'est extraordinaire lui. Lui, c'est le mec, tu sais, voilà, tu balances des trucs comme ça, comme si c'était évident, c'est pas fait.
Président du Havre va être content, hein. Il va être champion devant lui.
Mais surtout, c'est pas ça dont je voulais parler. Je voudrais revenir sur un événement majeur de la planète football quand même.
Lequel ?
Hier, lors d'un match. Pour une association pièce jaune, on a vécu ça.
Et but pour la team Chapourou, but marqué par le numéro 3, Emmanuel Macron.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut.
C'était magnifique. C'était magnifique, tu l'as vu, c'était, on se serait cru avec le sultan de Brunei, Bukil Jong-un. C'est deux mecs qui met pas un pied devant l'autre, on aurait dit Philippe Croison qui tente un jongle. Drogba a tenté plus.
Ils ont dit au gardien, surtout une planche.
Ah là, mais le pire, c'est pas ça. Drogba a tenté.
Il a été pris à contre-pied, le gardien.
Drogba a tenté 2-1-2. Il a jamais vu le 2. Là, on se dit à ce rythme-là, Manu, il touche
pas. T'es meilleur que le président, toi, Julien, au ballon, parce qu'il paraît que t'es pas Jojo quand même. T'es meilleur que lui, tu crois ?
Tu sais quoi ? Un jour, tu demanderas.
L'attaque pas.
Tu demanderas à Alain Roche qui a fait un match avec moi et il a été subjugué.
Bah, c'est pour ça, il a parlé avec Alain Roche. C'est pour ça, il a parlé avec Alain Roche.
Justement, j'ai parlé à Alain Roche il y a deux jours, il m'a dit
c'est Qatar. Ça m'étonnerait, je peux dire.
En tout cas, c'est sûr que si la valeur étalon, c'est Manu, excuse-moi, t'as tué le pénalty, t'as vu ? Alors déjà, il y a un mec qui met une balle en touche. Pénalty ! Ah bon ? Qu'est-ce qui se passe ? Corée du Nord. Et là, bon, puis pénalty. Bon, en même temps, c'est Stéphanie Frappard qui arbitrait. Donc, elle aurait pu faire ça dans un match de Ligue 1.
On aurait pu en parler à M. Borghini. Elle était excellente.
Bien sûr.
C'était à son rythme.
Bien sûr. Alors là, ça allait peut-être même un peu vite. Alors là, je vous rassure, c'était pas le pénalty guette. Hein. Personne s'est battu pour le prendre. Hein. Mais allez-y, monsieur le président. Et tu montes. Mais ils veulent pas un contrôle fiscal. Donc, le gars s'élance. Tout le monde fait une prière. Ballard à terre de la puissance d'une quille de curling. Tu vois, avec tout le monde, les mecs voulaient balayer pour que ça avance. Le gardien fait mine d'être pris à contre-pied. Ah, c'est rentré. Et là, oh, bravo, monsieur le président. Vous savez, par rapport à mon permis de construire sur la véranda, bref, tout le monde était content. Ça lui a fait plaisir.
Voilà. Sucez-le.
Eh bien, de bon cœur. Moi d'ailleurs, je suis prêt. Hein. J'ai un contrôle fiscal encore. Donc,
il y en a deux qui se sont chargés.
Ouais. Ça n'engage que vous. Allez, sommaire. Les Marseillais sentent que la fin de saison peut être passionnante. Et oui, nous reviendrons sur ça. Et que leur équipe est quand même sur les rotules, leur place en championnat n'est pas top. Ils vont tout miser sur la Ligue Europa. Mais c'est pas fait. Mais ils sont lucides. Ils savent que non seulement c'est pas fait, et ils savent que c'est que la Ligue Europa, comme cet auditeur du 32-16. Oula, il y a eu un problème. Il y a un problème de son là.
Ah, c'est pas ce qui était prévu.
C'est
dans le sketch.
Un auditeur avec.
C'est pas grave.
Ça arrive.
À la machine balle. Je rassure les auditeurs qui ont l'habitude, on est sur RMC. Donc la technologie. Est-ce que j'enchaîne sur autre chose ou est-ce que j'attends mon son
Tu vas pas avoir cette information quand même, Julien.
J'enchaîne.
Attends, enchaîne.
C'est compliqué parce que tout s'enchaîne. Bref. L'OM va bien. Non, mais l'OM va bien. On va quand même faire un tour du côté de la commanderie.
la commanderie.
Allons-y.
Ah oui, parce que c'est quand même compliqué ce qui se passe en ce moment. Ah, en même temps, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on joue le championnat, est-ce qu'on mise tout sur l'Europa League? Je crois que le choix a été fait. En tout cas, Pablo Longoria a voulu mettre les choses au point avec Jean-Louis Gasset. On a l'entretien en exclusivité.
Allô, et pas de résidence, les gentils, bonjour.
Bonjour, c'est Pablo, je voudrais parler à Jean-Louis.
Ah, Jean-Louis, oui, oui. Corinne, c'est le portugais de l'autre fois.
Espagnol.
Eh ben, l'espagnol, c'est un portugais sans moustache. Corinne, oh. Il veut parler à Jean-Louis.
À qui?
À papy Jean-Louis.
Oui, c'est bon, il est dans sa chambre, je lui ai fait sa toilette.
Je vous en passe.
Allô, Jean-Louis, c'est Pablo.
Bonjour, président.
Je voulais savoir si vous sentiez le groupe prêt, là, pour la fin de saison.
On est au bout du rouleau, là.
Ah, forcément, ça s'est vu.
Pardon, président, je parle à Viviane pour qu'elle nous ramène du PQ.
Moi, ça fait trois fois que je me torche avec les mains, j'ai plus des doigts, j'ai les Kinder Bueno.
Gisling. Désolé, président.
C'est rien. Pour revenir au match contre Bergame, je pense que tout va se jouer au retour dans le stade.
C'est un véritable chaudron. L'ambiance est irrespirable.
Eh, ça vaut pas le vélodrome.
Pardon, président, je parlais de la cuvette. En plus du papier, les bouchées, ça sent toute la chambre.
Oh. On dirait le froc à Rachid Zerwal quand il a croisé Benassia.
Oh, Ghislaine, tu me fais honte. Pardon, désolé, président.
Pardon, c'est bon. Mais vous sentez un joueur qui peut faire la différence, là? Un gars en forme?
Oh, nana.
On en a, bah bon pour
toi. Pardon, président, j'appelais la petite chatte qu'on a adoptée à Végislain. Elle attend des chatons. Et nana, gentille nana.
Bon, je vais vous laisser, hein. Et courage pour le match contre Lens.
Oh là là, ça sent pas bon, ça pue là.
Parlez de la cuvette?
Non, je parle du match.
C'était prévu.
Oh non, mais je pense qu'ils sont plutôt confiants. Alors, on a retrouvé l'auditeur qui est lucide. Ah. L'auditeur qui sait que c'est pas gagné. Et qui sait que ça n'est que la Ligue Europa. On est avec lui.
Pourquoi pas l'OM peut espérer gagner les 2-0 contre l'Atalanta à la maison. Et après, tu mets le bus au match retour. Mais les RQCM, au bout d'un moment, ils vont perdre cette saison. Ils commencent à avoir une pole de cul. Donc, tu peux espérer qu'ils perdent contre toi à la 95e.
Après,
par contre,
ouais,
il y a un seul problème. Si on gagne la finale de Ligue des Champions, il y a...
Oui, si on gagne la finale de la Ligue des Champions après avoir battu les Leverkusen, effectivement, donc, juste leur rappeler que... Après, si tu calcules bien... S'ils battent Leverkusen, et que toi tu bats le Bayern en finale, et que Leverkusen est son premier, et qui c'est qui est champion d'Europe? Et oui, et tu n'as pas pensé à ça toi Jérôme. Toi tu penses que si le PSG bat le Bayern, qui était deuxième, ils sont champions d'Europe. Mais si l'OM ils battent Leverkusen, qui est premier du championnat d'Allemagne, c'est eux les champions d'Europe, et oui.
Je vous l'annonce, hein, ça va sortir. Hein. Je vous l'annonce, ça va tomber. Je voudrais avoir une dernière pensée, je voudrais finir par une pensée pour un club de la Galaxie PSG, justement, parce que c'est qu'il y a la Galaxie OM avec Chelsea, Manchester City et le Bayern. La Galaxie PSG c'est moins fringant, hein, puisqu'on connaît les filiales, il y a le FC Sochaux. Qui vous avait laissé en Ligue 1 grâce à, te rappelle, Jérôme, le FC Sochaux avec Pancrate, toute la bande qui vous avait fait, permis de vous sauver. Oh, et surtout, non,
le deuxième club de
sauver.
Mais aussi, attends, on le sait tous, les Richards, tout ça, bien sûr. Ah, j'ai pas la balle. On connaît l'histoire. Ouais. Et le vrai club de la Galaxie PSG, c'est quoi? Valenciennes, évidemment, le club frérot Valenciennes, hein, les frérots. Et malheureusement, Valenciennes rétrogradé en national. Mais parfois, quand le club descend, les mecs, soit ils pètent le bus des joueurs, soit ils cassent le centre d'entraînement, soit ils insultent le président. Et ben là, les supporters de Valenciennes, ils ont chanté après le match. Écoutez, c'est un moment rare.
Le national, c'est pas si mal.
Dans le Nord, on voit toujours le côté positif, tu vois, qu'est-ce que je te dis.
Et c'est là où tu te rends compte qu'il n'y a que des 5 000 dans ce MGS.
Et alors
changez pas, les mecs. Allez, à tout à l'heure.
RMC, le Casar enchaîné.
Réécoutez Julien Casar en podcast sur rmc.fr et l'appli RMC.
Et à tout à l'heure, Julien, pour le quiz à 19h45. Avenir Dembélé, peut-il remplacer Mbappé l'an prochain? Et puis le feuilleton OM-PSG, la France a du talent. On se remémorera l'année 99 et la finale de Coupe de l'UEFA de l'OM. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.